Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 8h30 en temps universel, tout comme à Dakar, le journal.
Pierre Boudias.
Djibouti, future rampe de lancement des opérations françaises en Afrique. Le souhait est formulé par Emmanuel Macron. En tournée dans la Corne de l'Afrique, le président s'adressait aux 1500 militaires stationnés dans le pays. Le grand pardon au Burkina Faso. Le gouvernement de transition adopte une loi d'amnistie pour la tentative de coup d'état manqué de 2015. Une amnistie sous condition, vous l'entendrez. La destitution du maire de Dakar continue de provoquer des remous au Sénégal. Barthélémy Diaz s'est vu retirer son mandat pour une condamnation dans une affaire de meurtre depuis plusieurs conseillers municipaux assurent ne plus avoir accès à l'hôtel de ville. Et puis Antananarivo, sa rime au parti présidentiel, la capitale malgache remportée par une fidèle du chef de l'État. Nouveau succès électoral pour Andry Rajoelina après les législatives de mai dernier. Emmanuel Macron est donc à Djibouti pour repenser la stratégie française en Afrique, expulser de nombreux pays sahéliens. Paris tente de redéfinir sa présence sur le continent. Un avenir qui passe par Djibouti, selon le chef de l'État français qui s'exprimait hier devant les 1500 soldats français stationnés sur place. Au cours de ce discours, le chef de l'État a annoncé que cette base allait se réinventer comme point de projection pour des missions en Afrique. Reportage de notre envoyé spécial sur place, Pierre Firsion.
Vous avez toujours été une emprise particulière, a lancé Emmanuel Macron aux 1500 soldats français présents sur la base aérienne 188. Djibouti est effectivement une base à part, beaucoup plus tournée vers la mer Rouge, l'océan Indien et l'Indo-Pacifique qu'elle ne l'est vers l'Afrique. Mais ce choix stratégique est en cours d'évolution, a annoncé vendredi le président français.
C'est aussi, et ce sera d'ailleurs à réinventer, un point de projection pour certaines de nos missions africaines. Et donc je veux ici marquer la différence entre ce que chaque jour vous bâtissez depuis cette base et ce qui est fait la restructuration de notre approche sur le continent africain.
Une restructuration forcée car la France est contrainte de quitter le Tchad et le Sénégal après avoir dû évacuer le Sahel.
Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique, parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent et parce que nous avons décidé de manière souveraine en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés.
Fini donc.
La logique qui était la nôtre dans trop de pays, de bases installées, pléthoriques, permanentes, qui ne conduisait plus à une relation partenariale mature parce qu'elle ne reposait plus sur l'expression d'un besoin clair, identifié.
Au Gabon et en Côte d'Ivoire, où subsistent encore des bases françaises, les effectifs sont en diminution et ces bases pourraient être à l'avenir partagées avec les armées locales. Pierre Firsion, Djibouti, RFI.
Et après un entretien ce matin avec son homologue djiboutien, Emmanuel Macron est attendu dans l'après-midi à Addis Abeba. Un dîner de travail avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est au programme. Au Burkina Faso, le gouvernement vient d'adopter un projet de loi portant amnistie de personnes condamnées dans le cadre du coup d'État manqué de 2015. Selon le ministre de la Justice, les personnes concernées devront reconnaître les faits, bien se comporter et faire preuve d'engagement patriotique dans la lutte contre le terrorisme en 2015. Pour rappel, un groupe de soldats issus de l'ex-régiment de sécurité présidentielle avait tenté de mettre fin à la transition en cours après la chute de Blaise Compaoré, coup d'État qui avait échoué suite à l'opposition d'une partie de l'armée et des populations. Décryptage avec Willy Diallo.
Les personnes concernées par l'amnistie seront désignées dans un décret à venir. Selon le ministre de la Justice, l'une des conditions sera de manifester la volonté et l'intérêt d'être déployé sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire. Ce dernier a ajouté que cette décision n'est pas pour autant une remise en cause des acquis de l'insurrection de 2014, celle donc qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Concernant le coup d'État manqué de 2015, un premier procès a eu lieu en septembre 2019, dont les jugements en appel se font toujours attendre. Pour le ministre, la loi d'amnistie permettrait aussi de pallier à la lenteur de la justice et de débloquer la situation. Un juriste burkinabé considère toutefois que cette loi est bel et bien une volonté de réhabiliter les militaires qui sont en prison, car cela revient à cautionner le coup d'État. Ils seront blanchis, réhabilités et même dédommagés, regrette l'homme de droit. En attendant de savoir le contenu exact de ce projet de loi d'amnistie, l'un des avocats des victimes du coup d'État manqué de 2015 explique ne pas comprendre les motivations profondes qui entourent cette mesure.
Willy Diallo, pas de pardon pour le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, destitué de son poste par un décret préfectoral il y a une semaine. Depuis, des conseillers municipaux se verraient refuser l'accès à l'hôtel de ville de la capitale. Situation dénoncée par le collectif des organisations de la société civile pour les élections, la COSCE, Alassane Seck et le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, membre de ce collectif. Écoutez-le.
autour de 5-6 personnes qui étaient venues avec leur écharpe de conseil municipal. Il y avait des adjoints au maire. Ils nous ont dit de façon claire et nette qu'ils ont été interdits d'accès à l'hôtel de ville. Et nous avons été assez étonnés, inquiétés, si cette situation est avérée, qu'on puisse interdire l'accès du périmètre de la mairie de la ville de Dakar à des conseillers municipaux qui sont élus. Nous n'avons pas vu donc, dans la décision du préfet un lien quelconque avec le conseil municipal ou bien en tout cas les conseillers. On serait étonné de ne pas avoir vu des dispositions juridiques qui permettent donc d'interdire aux différents conseillers leur accès dans le périmètre donc, de la commune. Donc pour nous, il y a une distinction à faire entre le maire et les conseillers municipaux. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que calmer les jeux, une prise de responsabilité de tous les acteurs, d'éviter de tomber dans une situation où on constatera avec regret cette violation des droits d'un conseiller municipal.
Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Eux ont pu retrouver leurs proches jeudi dernier. 24 opposants tchadiens, tous membres du Parti Socialiste Sans Frontières, tous interpellés en février dernier dans les événements qui avaient conduit à la mort de leur dirigeant, Yaya Dillo. Ces libérations pourraient être un acte de décrispation alors que Mahamat Idriss Déby, le président, serait élevé aujourd'hui à la dignité de maréchal lors d'une cérémonie officielle à N'Djamena. Néanmoins, pour le Parti Socialiste Sans Frontières, le pouvoir a agi sous pression et les intimidations au continue. Précision, François Mazet.
C'est affaibli et nécessitant des consultations médicales que les 24 hommes ont retrouvé leurs proches après 9 mois à Korotoro. Les défenseurs des droits humains ont régulièrement alerté sur le cas des militants du PSF et c'est ce qui a permis leur libération, estime Mahamat Ousmane Adam, membre du Conseil national du parti.
Nous, on n'a rien à voir avec le maréchal, on n'a rien à voir avec lui. C'est grâce à l'appui des partenaires internationaux, les organismes et l'Amnesty International. Ils sont sous pression et pour cette raison qu'ils ont libéré.
Les membres du PSF continuent de dénoncer les intimidations. Si le chargé des finances Abakar Tourabi a été libéré en novembre après 9 mois de détention par les services de renseignement, le secrétaire général du parti Robert Gam est lui gardé au secret depuis fin septembre et le chargé de communication Évariste Gabnon vit caché depuis 10 jours et une agression présentée comme une tentative d'enlèvement. Il venait d'annoncer le boycott des législatives et de dénoncer l'utilisation frauduleuse du nom et du logo du parti par certains candidats. C'est ce que rappelle son camarade, Mahamat Ousmane Adam.
À l'intérieur de N'Djamena, nous ne sommes pas en sécurité. Moi-même, j'étais échappé à plusieurs reprises. Évariste même, il était victime. Nous sommes victimes parce qu'ils ont créé des gens parallèles. Ils ont présenté aux élections législatives au nom du parti et nous ne les connaissons pas.
Mahamat Ousmane Adam a lui-même quitté la capitale. Il dit vivre dans la clandestinité en province.
Et puis le parti présidentiel malgache empile les succès électoraux. Dénouement partiel hier des municipales du 11 décembre dans la capitale. Ville la plus disputée du pays, Antananarivo, resterait aux mains du camp d'Andry Rajoelina. Les résultats sont accueillis par une partie de l'opposition et de la société civile dans un climat de défiance. Alors que l'élection a été entachée de suspicions de fraude, le TIM, la principale force d'opposition, n'a d'ailleurs pas assisté à la proclamation de ce résultat. C'était hier. Réputé intouchable aux alentours de la capitale, le parti accuse une perte de vitesse dans plusieurs communes. Le point avec Pauline Le Troquier.
Avec 43% des voix, Arlel Ramanonsou offre au chef de l'État, Andjad Zouel, un succès électoral de plus, conservé la très disputée mairie d'Antananarivo dans le camp du pouvoir. Le duel annoncé entre les deux grands clans est moins serré qu'il ne l'a été par le passé. 19 000 voix séparent la candidate Irmar de son concurrent direct, Toudzra Valmanan, du TIM, le premier parti d'opposition. Pour Augustin Andjamananour, vice-président de l'Assemblée nationale, ces résultats sont la preuve de la maturité, dit-il, des Tananariviens.
Malgré les calomnies aujourd'hui, tout le monde souhaite le développement d'Antananarivo, la scolarité des enfants, l'assainissement du marché. On veut mettre fin à tous les conflits qui ne portent rien au bien-être de nos citoyens.
La vraie surprise de ces premiers résultats reste le taux de participation nationale porté à 48,8% contre 41% 5 ans plus tôt. Un signe de réussite pour la CENI qui relativise par ailleurs les cas de bulletins précochés observés le jour du vote. Hubert Fanaïmanan, directeur de cabinet du président de la CENI.
C'était des manœuvres, des manipulations de la part de certaines personnes qui voulaient simplement décourager les autres citoyens à voter. Mais ça n'a pas eu d'impact majeur à la sincérité des votes.
Les candidats malheureux ont encore quelques jours pour adresser aux tribunaux administratifs des preuves d'irrégularité dénoncées. Une fois sa victoire confirmée, Arlal Ramanonsou, propulsé nouvelle tête d'affiche du régime, devra encore asseoir sa légitimité à la tête de la première ville du pays où se concentre le pouvoir décisionnel. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
La publication des résultats provisoires des autres provinces du pays doit se poursuivre ces prochains jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.